Radio Alliance Plus, au fil des pages.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus dans cette émission au fil des pages, au micro Christian Delors. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir quelqu'un que nous avons déjà reçu il y a deux ou trois ans. Il s'agit de Didier Amouroux. Bonjour, monsieur Amouroux.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Vous étiez venu nous parler d'un livre, Les étrangers du Val de Londres, je crois bien.
Oui,
c'était
ça.
À la fois un roman et un livre d'histoire qui nous emmenait un peu partout dans le monde.
Oui, parce que j'aime bien, moi, présenter l'histoire en lien avec le réel, avec ce que nous voyons. Et alors, les éditeurs et les libraires ont un nom très savant pour qualifier cette démarche, un nom que je ne connaissais pas et qui m'ont appris. Ça s'appelle Uchronie.
Ah,
Uchronie,
oui.
C'est qu'on commence en 2025 et puis on plonge dans une période passée.
Là, effectivement, il y avait de tout dans ce... Il y a de tout dans ce roman, puisqu'il est encore, il existe encore.
Il est...
Il y avait des histoires de drogue, il y avait oui. la neige, il y avait des randonnées dans les Alpes, mais surtout, finalement, autour d'un lieu qui vous tient très à cœur, c'est le Pic Saint-Loup, le Hortus, les environs proches de Montpellier, au nord de Montpellier, pour ceux qui, et celles et ceux qui ne connaissent pas bien la région. Et c'est là que vous habitez d'ailleurs, je crois.
Et avec le thème très important, je crois, pour moi, mais pour beaucoup de monde, j'espère, qui est le thème de la protection de l'environnement. Protéger ce que les anciens nous ont légué pour qu'on continue à respirer aujourd'hui et à l'avenir.
C'est vrai, dans ce roman, il y avait des longues promenades autour du Pic Saint-Loup. On découvrait des plantes, etc. Nous, c'est très, très passionnant. Mais vous n'êtes pas particulièrement écologue, vous n'êtes pas historien.
Non. Je suis tout ce qu'on peut vouloir. Je m'intéresse à des choses, donc voilà, la protection de l'environnement, la nature. Je suis avant tout un romancier, moi, monsieur Delors. Oui. Donc quand j'ai une passion, un goût, un désir sur un thème, je travaille ce thème.
Et quand est-ce que vous avez commencé à écrire? Vous êtes romancier, mais vous n'êtes pas romancier depuis très 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 longtemps.
J'ai publié le premier livre en 2004.
Oui, c'est pas...
C'est pas très vieux,
c'est
non.
C'est pas très vieux.
Avant, j'ai travaillé, savez-vous, j'ai gagné ma vie.
Mais on peut travailler en écrivant.
Ben, moi, j'avais du mal parce que je trouve qu'il faut du temps de cervelle disponible pour écrire. Il faut se vider la tête.
Oui.
Il ne faut pas avoir des soucis de travail, il ne faut pas avoir des soucis de famille... Ou des bonheurs de famille,
oui.
Mais enfin...
Il faut l'esprit dégagé.
Oui.
Et vous étiez dans l'entreprise, vous savez ce que c'est que diriger une affaire, vous êtes passionné par l'écriture et puis par l'histoire.
Oui, je suis passionné par l'écriture d'abord, parce que je trouve que l'écriture, c'est un bon moyen de partager entre nous des émotions, des rires, des histoires. De faire passer des messages, et par l'histoire, parce qu'en effet, j'aime beaucoup l'histoire, c'est ma formation de base tout de même, donc j'y replonge un petit peu maintenant.
Et par le roman, parce qu'il me semble que vous avez envie de partager les choses, et il vous semble que le roman est un bon moyen.
Ah, moi je pense qu'on partage plus par l'émotion, avec une histoire bien documentée, on ne raconte pas des bêtises,
c'est
très documenté. Mais on partage mieux si on crée un roman autour de l'histoire. C'est ma thèse. Il y a des gens qui ne pensent pas ça. Mais moi je trouve que les livres qui sont purement historiques, avec on commence en 985, on continue en 986, et puis en 987, on ne finit par plus rien comprendre parce qu'on ne voit pas la perspective de l'histoire. Et ce que j'aime, moi, c'est de montrer la perspective de l'histoire. Par exemple, pour les Guyens de Montpellier, il y a des lignes forces. Il y en a deux ou trois, pas beaucoup. Et bien, elles sont concrétisées dans la vue qu'ils ont eue de leur ville et dans leur réalisation.
Oui. Alors, vous parlez des Guyens de Montpellier, c'est effectivement le titre de votre dernier ouvrage?
Oui. Nous, les Guyens de Montpellier, nos trois châteaux et la Vierge Noire, 985... 1206.
Donc,
parce que figurez-vous que personne ne sait, à Montpellier ou ailleurs, que les Guiens ont eu 3 châteaux. Ils imaginent bien que les seigneurs de l'époque ont eu un château, mais 3, non. Et où ils étaient, ces châteaux, personne ne le sait, il n'y a aucune plaque. Et puis le rôle de la Vierge, qui est sur le blason de la ville encore aujourd'hui, demandez, personne ne saura pourquoi. Alors la Vierge Noire, encore plus. Donc j'ai creusé pour savoir.
Vous avez creusé pour savoir. Et vous le faites, ça c'est sur le titre, eh bien, nous les Guiens de Montpellier, nos 3 châteaux et la Vierge Noire, 1985-1206. Et puis quand on ouvre le livre, on voit tout de suite roman historique.
Oui.
C'est un roman.
Oui.
Et effectivement, ce que vous dites est tout à fait juste. À la fin du livre, il y a un récapitulatif historique.
Oui.
C'est intéressant pour les justement pour se repérer, mais c'est vrai qu'un récapitulatif, c'est tout à fait indigeste. Et
oui.
Là, vous avez réussi à rendre cette histoire indigeste en quelque chose de, en un plat délicieux.
Oui, parce que sinon, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour ennuyer le lecteur, ça ne m'intéresse pas. Ça m'ennuie moi-même. Donc non, moi je veux qu'il y ait des rires, qu'il y ait des espaces, qu'il y ait un roman. Et en même temps, je veux que ce soit une vraie histoire, qu'on ne raconte pas des bêtises, que voilà. La couverture, elle sort du cartulaire des Guiens de Montpellier. Le cartulaire, c'est le recueil des actes administratifs de la famille des Guiens. C'est vrai.
Et ces actes administratifs, on les retrouve encore
il y a un livre, il y a eu des livres à Montpellier avec leurs actes administratifs, leur cartulaire.
Oui.
Et puis il y a eu les livres de toutes les décisions prises. Ça s'appelait le Thalamus, le grand et le petit Thalamus.
Et où est-ce qu'on trouve ces illustrations?
Aux archives municipales.
Aux archives de Montpellier.
Mais ça, sur le net, on le trouve. Hein.
Oui. Il faut dire que ce livre est agrémenté de quelques reproductions.
Oui. L'éditeur a accepté.
Pas nombreuses, hein. Mais...
Non, il a accepté quelques photos pour se repérer dans l'histoire de la ville. Le succès de cette ville qui était nouvelle. Elle est née en 985, quand Nîmes était déjà très très vieille. Eh bien, ils ont réussi à faire une cité sur un tas de cailloux, on l'appelait le clapas, sur un tas de cailloux, il n'y avait rien. Et ils ont attiré du monde, ils ont été très tolérants, ils ont accueilli des Juifs qui étaient persécutés en Aragon, en Castille et en Catalogne. Ils ont accueilli des marchands en leur promettant qu'ils n'auraient pas de taxes. Et puis ils ont protégé la ville en faisant des remparts. Et ils ont fait venir des musiciens aussi pour la rendre agréable, et des artisans, il y avait tout ce qu'il faut. Voilà, c'est ça la création de Montpellier, alors que c'était improbable.
Et vous me disiez, juste avant l'émission, que même le secteur où vous habitez, c'est le secteur du Pic-Saint-Loup, a été aussi convoité.
Oui, parce que les Guiens de Montpellier, au début, c'était rien du tout, c'était un tas de cailloux. Bon, le clapas. Petit à petit, ils l'ont fait grossir, mais une fois que Guillaume Ier a passé le relais à Guillaume II, à Guillaume III, ils se sont vite rendus compte que leur seigneurie était tout de même petite. Elle ne commerçait pas avec le Levant, parce que le Lèze, la rivière, n'était pas navigable. Donc, ils se sont dit, si on ne grossit pas, les comtes de Toulouse vont nous manger tout cru, parce que les comtes de Toulouse voulaient tout. Et puis, il y avait les Sarrasins aussi. Bon. Et donc, ils ont eu le projet. C'est un projet fou, et c'est un projet qui continue aujourd'hui, c'est d'actualité, de dire, eh bien, je vais prendre l'avant-port de Lattes. Lattes, c'était Latara, c'était une cité antique, 6 siècles avant Jésus-Christ tout de même, et qui avait l'avantage de communiquer avec la mer par un gros. Et s'ils prenaient l'avant-port de Lattes, première condition. Et deuxième condition, s'ils rendaient le Lèze navigable, ils espéraient en faire une ville très commerçante. Ça a pris 3 générations, mais ils sont arrivés à prendre le château de Lattes au comte de Melgueil et de Montferrand, et ils sont arrivés, en créant des pessières, des barrages sur les affluents du Lèze, à rendre le Lèze navigable, et de sorte que les bateaux qui venaient du Levant pouvaient remonter le Lèze jusqu'au pont Juvénal, à la Comédie, et descendre en particulier les draps rouges de Montpellier, qui étaient une exclusivité montpelliéraine, vers la mer pour les vendre. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que ça ne plaisait pas à tout le monde, et en particulier aux Génois et aux Pisins, qui avaient une flotte très forte et qui ont empêché le commerce montpelliérain de naviguer sur les flots pour aller vendre les marchandises. Ça a duré un bon siècle et demi.
Alors là, vous nous parlez d'histoire. On reviendra tout à l'heure vers le livre. Et tous ces éléments que vous nous expliquez, que vous nous racontez, on les trouve, on a des histoires, on a des livres. Cette histoire a été rassemblée.
Non, l'histoire n'a... Non, c'est le premier livre, à ma connaissance, hein, sur la totalité de la dynastie des Guillain. Il y a un livre qui existe sur la dernière de la dynastie, qui était une femme, Marie, mais sur l'ensemble des neuf Guillain et de Marie, c'est le seul. En revanche, il y a des livres d'histoire qui consacrent un certain nombre de pages à Montpellier. Il y a ça. Deuxièmement, il y a des actes anciens. Je vous ai parlé des thalamus, des actes de, on va dire, la mairie aujourd'hui. Il y a le cartulaire des Guillain. Et puis, il y a des témoignages. Par exemple, il y a des pèlerins qui, au début, ne passaient pas par Montpellier. Et ils sont passés par Montpellier le jour où le tombeau de Saint-Jacques a été découvert à Compostelle et que l'église Notre-Dame des Tables a été enrichie par une Vierge noire rapportée de la croisade. Et là, il y a des témoignages de gens de l'époque, même des visiteurs étrangers, qui relatent ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient, c'est quoi? C'est une petite ville, c'était pas grand. Au Moyen-Âge, les gens, ils étaient dans la campagne, ils n'étaient pas dans les villes. Mais c'est une ville animée, où les marchands parlaient toutes les langues, ce qui n'a pas changé d'ailleurs, pas seulement des marchands, mais à l'époque, toutes les langues, il y avait des marchands qui venaient de partout. Voilà. Et c'est grâce aux Guillain que c'est arrivé.
Voilà. Mais vous avez tenu à présenter toute cette histoire de manière romancée, et c'est ce qui est agréable. Je ne sais pas ce qu'on peut dire, et c'est qu'il vaut mieux laisser découvrir aux lecteurs.
Oui, mais, un roman, oui, il vaut mieux.
Mais c'est vrai que ça commence de manière improbable, on peut dire juste ce début.
Ben, au début, on se trouve au point le plus haut du mont. Le Montpellier, au début, ça s'appelait Monte Pestelario.
Oui.
Monte Pestelario, ça dit bien Montpellier.
Oui.
Et là, haut, au point le plus haut, aujourd'hui, il y a l'Arc de Triomphe. Et arrive, en juillet 2025, devant l'Arc de Triomphe, un hurluberlu qui est habillé un peu comme au Moyen-Âge, avec une robe. Au Moyen-Âge, on portait des robes. Mais une robe blanche, qui a été blanche jadis, qui est très tachée. Et en bas, il porte des bas, très tachés aussi. Et autour du cou, il a une vierge. Et ce gars, il lève les yeux au ciel, il voit écrit sur le fronton de l'Arc de Triomphe que c'est en la gloire du roi de France qu'il a été créé. Et là, il crie. Il crie, parce que Nîmes appartenait au royaume de France, mais Montpellier, non. Montpellier n'a pas été royal jusqu'en 1439. Et donc il crie, non, Montpellier appartenait aux Guillain de Montpellier. Et je suis Guillain de Montpellier. Alors tout le monde est esbahi et ne le croit pas, le prend pour un fou, un SDF, enfin voilà. C'est comme ça que ça commence, sur une veine drôle.
Et alors, c'est ça qui est oui, c'est ce qui rend le livre attrayant. On se dit, mais qui est ce personnage?
C'est ça.
Et on découvre donc que c'est un Guillain, et il croise il rencontre des tas de gens d'aujourd'hui, et qui n'arrivent pas à comprendre. Il s'y dit, oui, je suis. Et donc, c'est une réincarnation d'un. Donc,
oui. Et puis, c'est intéressant aussi qu'on m'approche parce que. Il y a la confrontation entre les époques. À l'époque de ce Guillain VI de Montpellier, les hommes étaient habillés en robe, ils parlaient occitan, il n'y avait pas de portable. Quand quelqu'un vous parlait, on le regardait, on l'écoutait. Et puis là, il va être dans la conversation avec des Montpelliéraines et Montpelliéraines d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui, c'est ça.
Et qui ont des portables, ils ne font que regarder le portable. Quand on leur parle, ils ne vous écoutent pas. Ils ne regardent pas l'interlocuteur. Ils s'habillent, les filles s'habillent très très court, ça le surprend. Ils mangent beaucoup, mais à l'époque aussi, mais là, c'est des choses très différentes. Il a des goûts qu'il n'a jamais connus, le thé, il ne connaissait pas, par exemple. Donc, il y a la confrontation des époques et puis la croyance. Il y a la confrontation des valeurs et des croyances. Oui. Lui, Guy insiste, il avait mauvais caractère, mais il était très, très croyant. À une époque où un certain nombre de seigneurs ont évolué un peu en dehors de la religion catholique, lui, il était très fidèle au pape. Et quand il arrive dans cette ville en 2025, il est surpris de voir que les lieux de culte sont vides et que la religion n'imprègne pas tous les actes. Et puis il est surpris aussi d'autre chose, c'est que la couleur de peau des gens qu'il croise n'est pas toujours blanche.
Oui, oui.
Donc il y a une confrontation des époques.
Les mœurs, etc.
Oui, les mœurs, oui. Donc c'est un roman, vous voyez, mais avec le roman, on montre des choses sur la société d'aujourd'hui aussi.
Écoutez, on va faire une petite pause
avec
musicale.
Plaisir,
je
oui.
crois que vous avez proposé Water Music de Handel.
Oui.
Radio Alliance Plus, 103.2 à Nîmes. Vous êtes dans l'émission Au fil des pages, où nous accueillons aujourd'hui Didier Amouroux, qui nous présente son dernier ouvrage, Nous, les Guillains de Montpellier, Nos trois châteaux et la Vierge Noire, 985-1206, roman historique. Oui, Didier Amouroux, vous nous racontiez pourquoi vous aviez choisi ce style de roman pour rendre cette histoire un peu compliquée,
limpide,
digeste, agréable, agréable même
agréable.
Agréable parce que on s'amuse effectivement. Ces rencontres un peu improbables que vous évoquez sont assez drôles, quoi, de voir ce prêtre, cet homme politique, on pourrait dire, puisque Guilla,
c'était un seigneur, et à la fin de sa vie, il est devenu moine.
Voilà, et il découvre effectivement la génération d'aujourd'hui. Mais alors, pourquoi avoir commencé par Guilla VI?
Ah oui, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons, il y a une raison qui m'a rangé.
Oui.
parce qu'on n'est que des êtres humains, que voulez-vous. Mon précédent roman s'intitule « Au Pic Saint-Loup, avec ou malgré vous ». Et dans ce roman qui porte sur la protection de la nature aujourd'hui, en 2025, comme c'est une uchronie, on plonge à un moment donné en 1124. Parce que figurez-vous qu'en 1124, Guy VI de Montpellier est allé attaquer la forteresse de la roquette d'Ortus, sur l'Ortus, qui appartenait au comte de Melgay et de Montferrand.
L'Ortus, et c'est à côté du Pic Saint-Loup.
C'est en face du Pic Saint-Loup, juste à côté. Et donc, je connaissais très bien Guy VI par ce fait. Et donc, ça m'était plus voilà, je m'étais bien habitué à lui. Je connaissais son caractère à travers ses gestes. Parce qu'à travers ses faits et gestes, on connaît les caractères. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est un peu un tournant, Guy VI. Guy VI, c'est celui, quand même, qui va prendre le château de Moggio, où il y a l'atelier monétaire, puisque le comte de Moggio faisait fabriquer une monnaie qui s'appelait le sol melgorien et qui avait cours sur tout le littoral languedocien et même en montagne. Donc il prend ça et il rend le Lez navigable. C'est énorme.
Oui,
tout à fait. C'est grâce à lui que Montpellier est devenu riche, oui. Les marchands. Mm-hmm. Voilà pourquoi j'ai pris Guy VI.
Les lecteurs découvriront donc à partir de cette histoire aussi l'histoire très proche de Montpellier. On a les noms de rues, on a des noms de rues qui existent encore.
Oui, tout à fait.
Rue de l'Aiguillerie.
Voilà, rue de l'Aiguillerie, dans laquelle les Guillens ont construit leur premier château, voilà. Au numéro 28. Et elle s'appelait à l'époque la rue Saint-Nicolas. Et c'était une rue des drapiers, parce que les drapiers ont joué un rôle très important dans le commerce montpelliérain. Surtout à partir du moment où Guillain leur a donné le monopole de la teinte en rouge des draps. Et ça a fait un succès fou, un buzz, comme on dit aujourd'hui, en Champagne, en Picardie et dans le Levant.
Oui, ce rouge venait de...
Ce rouge venait de la cochenille du chêne Kermès. Oui. Et comme il y a beaucoup de chênes Kermès en Garrigue, ben voilà, avec la cochenille, ils teignaient les draps en rouge.
Et ils avaient donc un droit exclusif.
Une exclusivité, absolument, qui a été confirmée par tous les Guillens. Et surtout, cette couleur rouge des draps a beaucoup plu à un grand nombre de pays, pas seulement le roi de France.
Alors maintenant, ici, vous êtes à Nîmes. On connaît un peu la rivalité entre Nîmes et Montpellier. Qu'est-ce qui, à votre avis, devrait inciter des auditeurs plutôt nîmois de notre radio à se pencher sur ce livre et sur cette histoire ?
Je crois que ce qui incite à se pencher sur cette histoire, c'est l'ouverture d'esprit. Une caractéristique des Guillens, c'est qu'ils ont ouvert leur ville à tout le monde. Ils ont accueilli des gens qui étaient persécutés en Aragon, en Catalogne, en Castille, et ils n'ont pas regardé s'ils étaient juifs. Ils ont accueilli Placentin, qui était mal mis en Italie, et ils en ont fait un grand maître de la faculté de droit. Ils ont accueilli beaucoup de médecins, beaucoup de marchands. Mais je crois que cette ouverture-là, aujourd'hui, c'est un fédérateur pour nous tous. Sans compter que l'histoire de l'hostilité ancienne entre Nîmes et Montpellier s'est bien estompée, je crois.
Oui, tout à fait. Voilà, c'est donc un livre passionnant. Maintenant, vous n'arrêtez pas d'écrire, me disiez-vous. Vous aimez écrire, vous continuez. Peut-être qu'on pourrait prolonger ces quelques mots qu'on a eus sur ce livre, sur peut-être d'autres ouvrages que vous voudriez rappeler ou sur des futurs ouvrages.
Alors, les derniers ouvrages qui sont publiés, c'est trois livres, donc une trilogie, sur le pays du Pic Saint-Loup, à travers les personnages qui peuvent aussi bien habiter d'ailleurs, parce que c'est des archétypes languedociens, habiter aussi bien à Quissac qu'au Pic Saint-Loup. Donc, il y a les étrangers du Val de Londres qui donnent une fresque sur la période, en gros, de Charlemagne jusqu'en 1968. Ensuite, il y a Recherche en Val-de-Londres sur un personnage extravagant qui est venu vivre là, qui était un artiste connu dans le monde entier tout de même, Olivier Brice. Et puis au Pic Saint-Loup, avec ou malgré vous, sur la protection de l'environnement. Ça, c'est ce qui a été publié jusqu'à présent. Il y a un livre qui est en réédition, qui s'intitule « Je suis de nulle part, disait-elle ». Et figurez-vous, monsieur Delors, que ce livre, bon, c'est un petit secret que je dévoile, il se termine à Nîmes.
Ah.
Parce que mon héroïne souffre sans le savoir d'un problème de racine. Elle s'appelle Garance, elle vit à Paris, elle travaille dans la boulangerie, pâtisserie, tout va bien pour elle, c'est un bon quartier, mais elle dit toujours à ses clientes « je suis de nulle part ». Ce n'est pas vrai. Et tout ce livre, c'est un chemin initiatique pour qu'à travers des rencontres, à travers un circuit dans le sud de la France, elle finisse par se convaincre que ses racines à elle sont nîmoises, que sa famille, avec laquelle elle a rompu il y a longtemps, est nîmoise.
Oui. Eh bien, c'est important de noter, de souligner cela. Et ce livre-là est aussi publié à Complicité.
Non, il est publié chez Saint-Saëns Éditions.
Oui, parce que j'aurais dû dire qu'effectivement, que l'ouvrage dont nous avons parlé, « Nous, les Guyens de Montpellier », est publié aux éditions Complicité,
oui.
au pluriel.
Oui.
Voilà.
Et Complicité va éditer, début 2026, un recueil de nouvelles que j'ai intitulé « Passion méditerranéenne ».
Ah ben alors, c'est...
Oui, parce qu'entre deux romans historiques, j'aime bien me distraire en écrivant des choses plus légères. Donc, entre les trois romans sur le Val de Londres, j'ai écrit « Je suis de nulle part, disait-elle
oui. »,
qui est une fiction. Et puis, maintenant qu'il y a « Nous, les Guyens de Montpellier », j'ai évidemment entamé un très, très gros travail de recherche historique pour un nouveau livre sur un personnage très difficile à cerner, un personnage emblématique, un roi. Mais entre-temps, voilà, je publie.
Vous viendrez nous en parler
dès qu'il
sera sorti. Voilà, vous êtes dans l'émission « Au fil des pages ». Nous accueillons Didier Amouroux pour son livre « Nous, les Guyens de Montpellier, nos trois châteaux et la Vierge Noire, 985-1206, roman historique ». Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et bien, bonne continuation pour tous ces projets que vous avez dévoilés.
Merci, monsieur Delors, merci à tous.
Voilà.
Et bonne lecture.
Merci, au revoir.